Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Le 30 août 1483, Louis XI, entouré de son médecin, d'un religieux et de quelques serviteurs, remet son âme à Dieu. Le corps royal, contrairement à la coutume, ne fut pas transporté dans la crypte de Saint-Denis, au nord de Paris, mais à Notre-Dame de Cléry, dans l'Orléanais. Ce fut là une des dernières volontés du roi défunt. Selon l'adage « Le roi est mort, vive le roi », le trône ne resta pas vacant et c'est Charles, huitième du nom, fils de Louis XI et petit-fils de Charles VII, qui succéda donc à son père. Le garçon n'avait pas 13 ans. Charles VIII reste dans nos mémoires comme le roi ayant donné à la France la Bretagne par son mariage avec Anne de Bretagne, fille du duc François II. Mort de façon prématurée et accidentelle en 1498, alors qu'il avait 27 ans, Charles VIII et son règne nous apparaissent bien éphémères à côté de celui par exemple d'un Philippe IV le Bel ou bien d'un Louis XI. Pourtant, comme nous allons le voir, ce règne fut riche à sa façon, mais aussi annonciateur et enfin représentatif de l'institution monarchique en cette époque, une époque considérée comme un temps de transition pendant lequel le Moyen-Âge s'estompe et laisse la place à ce qui est appelé la modernité. Alors, qui était ce jeune prince enfant, puis cet enfant roi du XVe siècle? Quel rôle joua-t-il dans les cours européennes et dans les relations avec les princes de ce monde? Quelle fut aussi sa popularité auprès de ses sujets, qui sortaient de la rudesse, parfois même de la vulgarité, d'un Louis XI selon les mots de Jacques Herz? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui avec Didier Le Fur. Didier Le Fur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, auteur de plusieurs ouvrages, un Louis XII, une monographie consacrée à la fameuse bataille de Marignan. Nous avons enregistré une émission ensemble sur ce sujet, une émission que nos auditeurs peuvent retrouver dans la médiathèque de Canal Académie. Vous êtes aussi l'auteur d'une biographie d'Anne de Bretagne. On a l'impression, Didier Le Fur, que vous remontez dans le temps, dans votre œuvre.
Pas forcément, c'est-à-dire qu'en gros j'élargis un peu à droite et à gauche un champ d'action et un imaginaire qui est cette fin du XVe siècle avec une constante toujours, c'est un travail sur l'image de la monarchie ou dans un contexte particulier qui est celui des guerres d'Italie. Pour Anne de Bretagne, elle a été l'épouse de Louis XII, elle a été la première épouse de Charles VIII, elle était presque un personnage reliant l'un et l'autre monarque et il était utile de travailler sur elle parce que essentiellement à cause des légendes qui ont été construites autour de ce personnage qui, de reine, était devenue de plus en plus duchesse et de plus en plus bretonne. C'est-à-dire en gros, la propagande bretonne, et notamment à partir du XIXe siècle, avait complètement réutilisé, la réemployée et avait complètement gommé son image de reine de France qu'il était utile de réinstaller.
Mmh. Ce que vous dites est très intéressant. Jacques Herz, dans sa conclusion de son Louis XI, paru dans la collection Perrin, dit dans sa conclusion, il cite Jacques Bainville, qui lui-même disait « Toutes les époques sont des époques de transition ». Vous voyez à travers, par exemple, ce personnage d'Anne de Bretagne, qui fut d'abord l'épouse de Charles VIII, puis l'épouse de Louis XII, cette évolution, ce changement, ce passage d'une époque médiévale à une époque plus moderne.
C'est très difficile de l'avoir sur un plan économique ou sur un plan social, puisqu'on n'a pratiquement plus aucun matériel là-dessus. Mais sur le plan politique, on peut vraiment le voir. À partir du moment où la France, qui sort de cette crise longue de plus d'un siècle, était la guerre de 100 ans, qui se reconstruit à l'intérieur, qui s'unifie aussi à partir de Charles VII, mais puis sous Louis XI, et continuera à le faire sous Charles VIII et Louis XII, c'est-à-dire en gros de faire ce qu'on va appeler au XVIe siècle du monarque français un monarque hors page, c'est-à-dire qui est le seul à régner sur le royaume et que les opposants vont après appeler le monarque absolu, eh bien c'est vrai que c'est une transition, mais cette transition elle se mêle à une autre transition, c'est-à-dire une France expansionniste qui va abandonner ses prétentions vers le nord et plus pour regarder vers l'Italie, au moins jusqu'à Henri II, même si jusqu'à Napoléon Ier, eh bien l'Italie sera toujours dans l'imaginaire royal. ou en tout cas gouvernementale, eh bien, à partir du XVIIe siècle, on retentera d'aller chercher vers les possessions du Nord. Mais tout se mélange et tout s'enrichit, en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément... Toutes les périodes sont des périodes de transition, oui. Mais il y a des périodes plus ou moins longues.
Oui.
Et cette période du règne de Charles VIII, qui est une sorte de fin, de cette guerre de 100 ans, de cette fin, de cette union des territoires plus ou moins autonomes du royaume autour de la personne du roi et ce regard qui s'ouvre vers l'Italie, vers une France donc conquérante, c'est vrai que c'est une jonction supplémentaire. Mais bon, il faut toujours faire un peu attention à tout ça.
Alors, je ne l'ai pas dit à nos auditeurs, mais ils l'auront compris, hein, vous êtes l'auteur hein, d'une biographie consacrée à Charles VIII, parue chez Perrin, un très beau et un très bon livre. On est assez étonné par la pauvreté de l'historiographie sur Charles VIII. C'est dû à quoi ? C'est dû au règne éphémère, à l'absence de sources ?
À l'absence de sources, certainement. Mais pendant très longtemps, on n'a pas écrit l'histoire avec les sources que l'on utilise aujourd'hui. Enfin, en tout cas, depuis le début du XXe siècle. Donc ça, c'était pas vraiment un problème. L'histoire de France, c'est d'abord une histoire royale jusqu'au milieu du XIXe. Donc c'est une histoire masculine. Et en général, on ne traite exclusivement que des règnes et des personnages qui ont pu enrichir ces règnes. Alors forcément, selon les périodes, si on est Valois, si on est Bourbon, et qu'on a envie de justifier une politique ou une certaine attitude face à certains événements, on va choisir des modèles dans l'histoire et ces modèles vont soit être favorables un temps, soit au contraire rentrer dans l'enfer de l'histoire. L'historiographie de Louis XI, par exemple, est très significative de ça, c'est-à-dire grosso modo, Louis XI a eu une opposition forte pendant son règne. Dès l'avènement de Charles VIII, ceux qui étaient dans cette opposition, arrive au pouvoir pendant quelques semaines, donc du coup vont critiquer très ouvertement Louis XI, puis ces mêmes personnes vont être reléguées de nouveau dans l'opposition, donc Louis XI obtiendra encore une image favorable. Cette image va se détruire sous Louis XII, ancien duc d'Orléans, qui était une des victimes de Louis XI. Voilà, et grosso modo, voilà, vous allez jouer comme ça pour tous les 30, 40, 50 ans à des fluctuations d'images. Et c'est Louis XI va rester jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il va servir tout, ou en tout cas servir d'objet de valorisation ou un objet de critique selon les régimes. Et Charles VIII n'avait pas cette identité, entre guillemets. C'est un roi jeune, c'est vrai, qui meurt jeune, et il avait une image déjà trop douce de son vivant.
Oui.
Alors, il a eu, pendant au moins jusqu'au milieu du XVIIe siècle, une très bonne image, parce que l'image guerrière d'un roi de France était essentielle, et qu'il avait différentes victoires à son actif, et notamment à la bataille de Fornove et pendant la campagne d'Italie, mais aussi la conquête du duché de Bretagne. Mais à partir du XVIIe siècle, cette image guerrière devient une image secondaire et qu'on préfère voir et dans un roi de France, un roi soucieux de l'économie, soucieux d'une bonne justice, soucieux d'une centralisation et d'une préoccupation plus grande, non pas d'une image du royaume, mais de la population. Et forcément, Charles VIII n'avait pas ça, puisqu'il n'a pas été un roi réformateur, et même s'il a fait quelques réformes, ces réformes ont été très vite mises de côté pour privilégier d'autres princes, soi-disant plus réformateurs, comme Louis XII ou Henri IV. Et alors que finalement, si vous faites le tableau des réformes, elles sont presque identiques.
Mais il y a toujours une continuité.
Il y a une continuité, exactement. Tandis que pour Charles VIII, donc, l'histoire n'avait gardé que cette mémoire-là. Et comme cette mémoire n'était plus à la mode, eh bien finalement, peu à peu, on l'a délaissée. Les chroniques ou les histoires du roi royal ne se sont bornées qu'à de tout petits textes sur lui, à résumer l'essentiel d'un règne en quelques lignes. Et lorsqu'il a fallu critiquer cette image militaire de Charles VIII et ou d'autres de princes, eh bien finalement on a été chercher dans les sources ou dans des textes un peu plus tardifs tout ce qui pouvait être mauvais, tout ce qui avait été raconté de mauvais sur ce prince. Et peu à peu, accumuler ces images, et notamment au XIXe siècle, vont faire une sorte de caricature de ce prince, enfant certes, mais incapable, idiot, complètement gouverné par une femme, sa sœur, alors que sa sœur n'a pas eu de rôle réel, en tout cas dans le gouvernement du royaume, puisque c'était une femme et qu'elle n'avait pas le droit d'assister au conseil. Mais là aussi, toute la mythologie s'est faite autour de ça. Et finalement, l'histoire a préféré Louis XI, pour des raisons de centralisation politique que la République appréciait, et a fait la jonction entre Louis XI et Louis XII par le règne de sa sœur, qui n'a finalement pas régné.
Donc vous restaurez l'image d'un roi sans aucun doute. Alors venons-en à la vie de ce roi et d'abord à sa naissance. Louis XI, enfin de ce prince en tous les cas, Louis XI a mis du temps avant d'avoir un héritier.
Oui, il a eu beaucoup d'enfants, sauf que ses enfants n'ont pas vécu. Il y a eu deux garçons avant Charles, et ces deux enfants sont décédés en bas âge, ou même quelques heures ou quelques jours après leur naissance. Et c'est vrai que Louis XI avait 46 ans quand Charles VIII est né. Et là encore, il y avait deux filles qui avaient survécu, qui deviendra Anne de Beaujeu, et Jeanne, qui deviendra l'épouse de Louis d'Orléans, avant que celui-ci annule l'union et qu'elle fonde l'ordre des Annonciades à partir de 1505, enfin à partir de 1501 plutôt. Et mais d'enfants non, et enfin de fils non. Alors c'est pas vraiment un problème pour la monarchie. Louis XI avait un frère, Charles de Guyenne, et celui-ci pouvait succéder. En fonction de la loi successorale du royaume. Le seul problème, c'est que les deux frères ne s'entendaient pas du tout, et puis qu'il était toujours plus utile et plus glorieux pour un roi d'avoir un héritier direct. Et cet enfant donc naît presque par hasard, enfin après beaucoup, en tout cas beaucoup de tentatives, et va survivre. Et pour que sa santé soit la meilleure qu'il soit, Louis XI, et afin de le protéger aussi de tous ses ennemis et de toutes les rumeurs qui pouvaient courir sur les enlèvements et divers et variés.
Il est surprotégé, ça.
C'est un enfant surprotégé complètement, qui est enfermé dans un château, celui d'Amboise, qui est en complète restauration, et cet enfant va vivre 13 ans. Dans ce château et dans les terres alentours, mais ne sortant peu ou sortant avec une garde, toujours entouré d'une dizaine, une vingtaine de personnes armées et voyant pratiquement que les gens que Louis XI décide.
Je reçois Didier Le Fur, auteur d'une biographie de Charles VIII, parue aux éditions Perrin. Nous nous retrouvons dans un instant.
La médiathèque de Canal Académie, c'est plus de 800 émissions en libre téléchargement. Vous avez aimé ce programme ? Vous avez apprécié cette émission ? Vous aimeriez réentendre cet académicien ? Retrouvez cette émission dans la médiathèque de Canal Académie. Le téléchargement est gratuit.
Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Didier Le Fur, historien, un spécialiste des 15e, 16e siècles. Vous êtes l'auteur, Didier Le Fur, d'une biographie de Charles VIII, tout récemment parue chez Perrin. Alors nous avons évoqué la naissance de ce roi, de ce prince. C'est un enfant du miracle. Et ce qui est attachant dans votre ouvrage, c'est la piété de ce Louis XI qui ne tarit pas dans sa volonté de remerciement des institutions religieuses. Vous le montrez dans votre ouvrage. Une fois qu'un prince est né, eh bien, on tient à remercier par des dons des différentes institutions religieuses.
Mais oui, parce qu'on pense toujours que c'est une création de Dieu, la naissance d'un enfant, une volonté de Dieu. Et donc les prières, soit de Louis XI, soit de Charlotte, ont été considérées comme exaucées. Et comme l'enfant a vécu, eh bien il y avait toujours cette nécessité de remercier. Et comme Louis XI avait un culte particulier à la Vierge, eh bien... Pour des raisons autant personnelles que politiques, parce que ça l'arrangeait aussi pour pas mal de choses, mais il est peut-être inutile de parler de tout ça ici, eh bien, Louis XI a remercié régulièrement les sanctuaires qu'il avait visités pour obtenir la naissance d'un enfant, et notamment Notre-Dame du Puy en Anjou et Notre-Dame du Puy en Velay.
Alors, il s'agit de l'enfant du miracle. Vous parliez d'un Louis XI roi itinérant, d'un dauphin qui, lui, est surprotégé. Et était-il réellement menacé ? Ou était-ce finalement qu'une protection, j'allais dire, sanitaire, dans la mesure où le voyage pouvait très bien...
Pour la santé, si. Mmh. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une chose, c'est que même un enfant droit est soumis aux fragilités du temps et une épidémie. Son fils, Charles Orland, va mourir alors qu'il y avait une rougeole dans la région d'Amboise, une épidémie de rougeole dans la région d'Amboise. Eh bien, et qu'on pensait que cette épidémie était terminée et que l'enfant avait échappé à cette épidémie, eh bien, quelques jours plus tard, cet enfant va donc être atteint de cette rougeole et va mourir extrêmement vite. Mmh. Donc, Charles enfant était aussi susceptible de ces maladies, et enfin, même si elles paraissent aujourd'hui bénignes, mais elles étaient importantes à l'époque, elles faisaient vraiment des ravages. Et donc, c'est vrai que c'était une nécessité de protéger, c'était le seul héritier. Et puis aussi, sur le plan politique, c'est vrai que il y a eu des complots faits contre Louis XI. Donc, qu'ils aient voulu atteindre l'enfant, peut-être, ça c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, des gens ont été jugés, des gens ont été condamnés pour avoir été suspectés de cela, en tout cas.
Alors passons à l'éducation, hein, l'éducation du prince. Le roi ne s'appartient pas, il appartient à son peuple, à ses sujets, si bien que dès son plus jeune âge, on lui apprend à régner. Comment se passe l'éducation d'un jeune prince à la fin du XVe siècle ?
Régner est un mot un peu trop puissant. En tout cas, on lui apprend les bases d'un noble, enfin les bases d'une éducation de noble, c'est-à-dire en gros de savoir et d'un noble chrétien, c'est-à-dire d'abord ses prières, ça c'est essentiel. Il doit aussi apprendre au moins l'essentiel de l'histoire de la Genèse et en plus des livres d'histoire qui vont lui permettre, enfin la lecture de livres d'histoire, en tout cas l'écoute de ces livres, qui vont lui permettre aussi d'apprendre les personnages les plus importants, autant dans l'histoire universelle, ça passe de César, d'Auguste, mais aussi dans l'histoire nationale avec Clovis et puis tous les mythes qui entourent ce règne et aussi ceux de Charlemagne ou de Saint-Louis. Et ensuite, il y a une éducation aussi physique, puisque un prince doit être d'abord aussi un guerrier. Son métier, c'est de défendre un royaume, défendre une population. Donc, ce nouveau roi doit être avant tout un bon cavalier, savoir manier les armes et toutes celles qui peut, en tout cas, manier à son âge. Alors, selon les périodes, ce sont des objets différents. Mais en tout cas, le but est quand même de faire du nouveau roi, d'abord et avant tout, avant même d'en faire un intellectuel, d'en faire un homme physiquement puissant et un vrai bon chevalier.
Vous, dans mon introduction, je rappelais je disais que votre ouvrage était représentatif et le règne était représentatif de l'institution monarchique. Vous écrivez dans votre ouvrage, mais un fils de roi ne devait pas seulement être instruit, comme il était destiné à régner, il lui fallait connaître ses devoirs avant de monter sur le trône. Quels étaient les devoirs d'un roi au XVe siècle?
C'est un vrai programme politique, c'est un programme qui tourne autour de l'amour, d'aimer son peuple.
Dans le sens religieux du terme
Oui, c'est-à-dire que le pouvoir du roi est donné par Dieu, hein, même si il est approuvé par le peuple, enfin parce que le peuple soutient cette idée. Mais donc il y a une sorte de communion comme ça. Mais il y a aussi ce devoir du roi donc d'aimer Dieu, d'adorer Dieu, et pour respecter cet amour de Dieu, devoir aussi aimer son peuple et donc agir pour le protéger, pratiquer une bonne justice et pratiquer une fiscalité douce. C'est un vrai programme politique. Tous ont prétendu vouloir l'appliquer, avec beaucoup de nuances selon les périodes. Et quand ils ne pouvaient pas le faire, eh bien, ils trouvaient toujours un moyen pour pouvoir se justifier. Et Louis XI, qui par exemple a augmenté les impôts de plus de 400% pendant tout son règne, à la fin de sa vie, et en tout cas dans toutes les éloges funèbres qui étaient favorables à lui dans les années 1484, eh bien, on a prétendu qu'il avait quand même, malgré tout, réinstauré la paix dans le royaume et donc sa volonté d'aimer son peuple par l'instauration de cette paix et le protéger de toutes les ennemis autant interne qu'externe, était un acte de bon gouvernement.
Peut-on parler, vous parliez de la France, des sujets, qu'est-ce que l'unité française ? Existe-t-il au XVe siècle une unité française ?
Non, c'était une abstraction comme on peut parler de l'unité italienne au XIXe siècle, c'est-à-dire en gros, il y a une unité géographique avec un royaume, il y a un pouvoir royal qui est direct dans ce qu'on appelle le domaine royal. C'est-à-dire, au départ, si vous prenez l'origine des Capétiens, Paris et sa région parisienne, et qui peu à peu va se mêler aux frontières du royaume. Et après, il y a des territoires, comme le Dauphiné, qui sont rattachés à ce royaume, mais qui n'appartiennent pas encore à ce domaine royal, et qui ont encore quelques institutions variées et différentes, et qui ont quelques libertés aussi, comme le duché de Bretagne. Pareil, c'est-à-dire en gros, il appartient au royaume de France, mais il n'est pas intégré au domaine, donc il n'est pas soumis aux lois immédiates du domaine royal. Et par contre, d'autres régions qui étaient, comme la Bourgogne, intégrées dans le domaine royal, qui ont été sorties de ce domaine un temps pour un apanage et qui ont eu des prétentions indépendantistes après. D'où toute cette complexité, un petit peu à la fin du XVe siècle, entre princes devant servir le roi mais ayant des prétentions autonomistes et d'autres ayant des devoirs mais avec toujours une certaine liberté et que le prince par contre cherchait à diminuer.
Je reviens au futur Charles VIII. Quelle était sa personnalité ? Nous évoquions le fait qu'il soit surprotégé. Est-ce que cela lui a nui ? Nous disions tout à l'heure que le devoir d'un roi était d'apprendre à devenir chevalier. Est-ce que c'était un garçon courageux ?
C'est très très difficile à dire tout ça. Il s'est battu. Un peu, quand il est à Fornov, il a été un peu pris au piège, donc il était un peu obligé de réagir parce qu'il pouvait pas faire autrement. Mais il s'est très bien comporté, même s'il a été aussi très très protégé pendant cette bataille. Il faut pas croire, on n'expose pas un roi comme ça. C'est l'essentiel, c'est la sève même d'un pouvoir. Donc on va pas l'exposer comme aujourd'hui on n'expose pas un président de la République n'importe comment. Eh bien, un roi c'est la même chose, surtout lors d'une bataille comme cela. Donc sur son courage, c'est très très compliqué à expliquer. C'est même très compliqué à dessiner un portrait dit psychologique de l'individu. On n'a que des textes qui peuvent vanter un acte politique ou alors des discours d'ambassadeurs qui vont soit être favorables parce que l'ambassadeur a besoin d'une bonne image du roi de France pour pouvoir compléter les alliances futures, ou alors au contraire le détruire complètement parce qu'on a envie que les alliances ne continuent pas et ou déclarer une guerre. Donc les portraits du roi sont vrais et souvent très contradictoires. On va parler d'un enfant souvent, enfin, ou d'un jeune homme timide et ayant des difficultés à s'exprimer ou craintif parce que justement on ne l'aime pas beaucoup, comme Philippe de Comines qui avait quelques petits problèmes avec lui. Mais le problème, c'est que ses mémoires ont eu un énorme succès et qu'elles ont servi de pierre angulaire autant pour l'histoire de Louis XI que pour l'histoire de Louis XII. Et qu'il est, même cet individu qui a été ambassadeur, se protège et raconte des événements, notamment pendant la guerre d'Italie, qui lui sont très très favorables, alors que quand vous regardez les notes des ambassadeurs vénitiens de la même époque, il se rit complètement de lui. Donc ces problèmes, ce sont des mémoires, c'est parfaitement subjectif, donc pour trouver le vrai fil ou quelque chose de plus ou moins honnête, c'est très très compliqué. J'avoue que je ne m'y hasarderai pas.
Alors, Louis XI veut transmettre ces fameux devoirs dont vous parliez tout à l'heure. Il y a un moment très important de votre ouvrage, c'est la séance publique que vous décrivez le 22 septembre 1482. Et lors de cette journée, Louis XI, en quelque sorte, institue Charles héritier du royaume de France. Il y avait un besoin de confirmer ce jeune enfant comme héritier.
Et était-ce parce que il y avait tellement de divisions au sein du royaume entre les grands qu'il fallait absolument l'imposer?
C'est-à-dire qu'en 82, les divisions étant tellement étouffées qu'elles n'apparaissent pas encore, mais elles sont là, hein, elles existent. Et donc, Louis XI était loin d'être un idiot et il imaginait très très bien qu'un enfant qui n'était pas encore majeur, s'il arrivait à cet âge au pouvoir, eh bien, serait forcément l'objet de guerre et en tout cas de convoitise. Et donc c'était une façon, alors que la loi du royaume fait que l'héritier direct soit reconnu officiellement comme prince, cette espèce de passation de pouvoir public était une façon aussi de montrer à l'enfant, mais aussi aux autres membres du royaume, et notamment du conseil, que tous les gens qui avaient entouré Louis XI entoureraient dans le futur aussi Charles VIII. Donc c'était une façon de montrer que les hommes de Louis XI resteraient au pouvoir et que donc les opposants, qui peut-être déjà imaginaient, et comme ils vont le faire après, une sacrée revanche sur le passé, et bien de les tenir un peu à l'écart de tout ça, ou en tout cas de leur dire que ce ne sera pas si facile que ça. Et effectivement, ça n'a pas été si facile que ça.
Alors quelle va être cette opposition entre les grands? C'est ce que je vous propose de voir, Didier Le Fur, dans un instant.
Balzac,
Maupassant,
Proust,
Guizot,
Chateaubriand.
Les grands noms de la littérature étudiés par les meilleurs spécialistes se retrouvent dans Au fil des pages.
En direct ou en médiathèque sur Canal Academy.
Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois Didier Le Fur, historien. Didier Le Fur vient de publier une biographie, vient de consacrer une biographie à Charles VIII, parue aux éditions Perrin. Alors nous avons évoqué l'éducation, la jeunesse de ce prince. Intervient donc la mort du roi Louis XI en 1483. Que peut faire un jeune garçon alors qu'il n'a pas 13 ans et qu'il a été confirmé comme étant le futur roi de France? Que peut-il faire tout simplement en face, ou plutôt au milieu de tous ces grands qui se battent?
À la fois rien et tout. C'est assez compliqué, dans le sens où comme il n'est pas majeur, c'est-à-dire que la majorité est à 14 ans, donc on doit attendre qu'il ait 14 ans pour qu'il soit reconnu roi officiellement. Et donc, il manque encore quelques mois. Et puis, à côté de ça, comme c'est un enfant, il doit donc avoir un tuteur pour tenir ses biens personnels. Ses biens personnels, c'est l'essentiel du domaine royal. Et à la fois, des conseillers pour tenir le gouvernement du royaume. Et très naturellement, dès la mort de Louis XI, Pierre de Beaujeu et toutes les personnes qui entouraient Louis XI lors de cette fameuse journée de 1482, eh bien, ont cru que le pouvoir leur était acquis. Or, Charles VIII avait encore sa mère, Louise de Savoie, et sa mère, parce que l'enfant est mineur, avait le droit de réclamer une régence. Et comme Isabeau de Bavière l'avait fait, et comme c'était dans les lois depuis la fin du 15e, le début du 14e, du 15e siècle plutôt, le moment où Charles VI avait perdu un peu la tête et qu'il avait fallu faire quelques petites réformes pour essayer de garder un gouvernement. Et donc, Pierre de Beaujeu ne veut pas aller contre cela. Donc, Charlotte de Savoie, même si elle n'est pas reconnue officiellement comme régente, va exercer ce pouvoir et va, avec le conseil et les partis des princes qui avaient été justement écartés de ce pouvoir, prendre la majorité au conseil et tenter de réformer ou en tout cas d'imposer un type de politique et surtout d'écarter tous les hommes qui avaient été sous Louis XI. Et d'où est légitimée en plus cette prise de position par les États généraux, par la réunion d'États généraux en 1484. Le seul problème, c'est que ces États, alors qu'ils ont été finalement très critiques, eux aussi, contre la politique de Louis XI, eh bien, par différentes manœuvres, et notamment probablement des échanges de comment on appelle ça, moi, je pourrais vous dire, tu me donnes, je te donne, vont aboutir finalement au maintien, voire même à la puissance reconnue des hommes de Louis XI, enfin, conduite par Pierre de Beaujeu, et à l'écartement des princes du sang.
Alors, vous décrivez naturellement toute la création du Conseil de Régence et l'action politique, l'action sur le plan fiscal, l'action sur le plan judiciaire. Vous décrivez le bouc émissaire, enfin le bouc émissaire Olivier Le Dain, hein, qui...
Oui, celui-là, il méritait bien quand même.
Qui méritait bien son sort. Mais je retiendrai peut-être, hein, parce que je tiens à ce que cette émission ait une vertu pédagogique, c'est cette question des états généraux. Pour tout le monde, les états généraux, c'est les états généraux en 1789, mais l'institution existait bel et bien avant, et le règne, en tous les cas, juste après le règne de Louis XI, les états généraux ont été réunis. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur ces états généraux? Avaient-ils du pouvoir? Que pouvaient-ils faire? Est-ce qu'ils avaient simplement un rôle de proposition?
Non. Officiellement, ils avaient été réunis au début du XIVe siècle pour une question politique toute bête. C'était de savoir si Philippe le Bel devait continuer à entretenir des relations correctes avec le pape. Et puis finalement, ces États qui ont été réunis régulièrement pendant tout le XIVe et XVe siècle ont souvent parlé d'argent. Et notamment, on les réunissait essentiellement pour parler de hausse d'impôts. Et puisqu'on leur avait accordé la possibilité depuis le XVe siècle, de discuter de la taille. Ces questions financières pouvaient aussi apporter d'autres questions, et notamment ces périodes de débat où on pouvait parler aussi du royaume, de l'idée qu'on se faisait du royaume, de l'idée qu'on se faisait de la monarchie, et de l'idée qu'on se faisait même du gouvernement en place. Alors, ça a souvent été critique, ça a souvent été violent. Il y a eu un des discours quand même qui pourraient surprendre aujourd'hui par rapport à l'image que l'on a de cette monarchie puissante et de ce peuple soumis. Pas du tout. Il y a une vraie opinion publique, elle se manifeste et justement par ces débats-là. Alors c'est vrai qu'on en a peu, que souvent les résumés ou les récits de ces états sont mal desservis par la conservation, mais ceux de 1484 sont assez riches, et on a une vraie belle image du royaume, en tout cas de l'image que l'on veut donner du royaume. C'est surtout ça, en fait. Et de la nécessité de réformes, et essentiellement fiscales.
Alors, je reviens sur la personnalité de Charles VIII et j'allais dire de sa position. Vous écrivez dans votre ouvrage que le sacre, en fait, ne fait plus le roi de France. C'est-à-dire que le sacre n'a plus vraiment la position qu'il pouvait avoir auparavant.
Ça revient à cette sorte, pas ça d'adoubement, mais cette reconnaissance officielle de 82 où le roi vivant reconnaît son héritier publiquement et que tout le monde approuve. Oui. Et finalement, cette séance qui n'a l'air de rien explique tout. Parce qu'en gros, finalement, c'est le roi qui reconnaît son héritier, qui lui dit ce qu'il doit faire pour poursuivre sa politique, pour être bien aimé de son peuple et pour pouvoir aussi conduire le peuple, l'État en paix, son devoir de prince. Et puis finalement, le sacre n'apporte, mais c'est quand même une chose essentielle, que la chose entre guillemets mystique, c'est-à-dire ce pouvoir supérieur reconnu de Dieu officiellement.
Oui, il n'y a absolument aucune coupure entre la monarchie et le divin.
Non. Voilà. Non, mais c'est une cérémonie malgré tout nécessaire, même si elle a perdu cette sorte d'élection, entre guillemets. L'élection ne se fait plus.
Alors, une des grandes qualités de votre ouvrage, c'est que vous présentez toutes les entrées royales. Et ces entrées royales, en fait, le roi se rendait naturellement dans plusieurs villes. L'entrée était préparée.
Longtemps à l'avance.
Longtemps à l'avance. Mmh. Mais ces entrées sont finalement des mises en scène extraordinaires et des mises en scène symboliques.
Oui, ce sont des spectacles qui, pour une journée, vont montrer à toute la population de la ville visitée, mais aussi des environs, mais aussi de l'église, de la région, de la noblesse de la région et de la population qui peut se rendre ce jour-là dans la cité. Un, ce que le roi veut. Deux, ce que le roi désire devenir. Trois, la politique à suivre ou la politique du moment. Et quatre aussi peut-être, et souvent même, les doléances que la ville souhaiterait. Que le roi écoute pour son avenir et pour une meilleure jouissance de l'existence.
C'est ce qui je
c'est
me permets
de dialogue en fait par l'image.
Alors c'est très important cette notion de dialogue parce que à la lecture de votre ouvrage, alors peut-être est-ce dû au fait que le règne de Louis XI a été un règne très dur, mais on a l'impression à la lecture de votre ouvrage que le règne de Charles VIII fut un règne où le pouvoir sut écouter. On a parlé des états généraux, vous évoquez ces entrées royales, ce véritable dialogue qu'il y avait entre les... J'allais dire les administrés, mais ce ne sont pas des administrés mais des sujets, et le pouvoir royal.
Il y a un changement. Louis XI avait une vraie personnalité souvent difficile et son régime a souvent été très autoritaire, même si aujourd'hui on a tendance à limiter un peu cet aspect du règne et à ne voir qu'un fondateur de l'État moderne. Certes, de loin, comme ça, oui. Sauf que dans le quotidien, il y a eu quand même une justice implacable et souvent extrêmement violente, des procès entamés pour simplement des suspicions avec souvent des condamnations à mort. Il y a eu des expulsions, des gens qui ont... sont fait exclure de leur fonction parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le souverain ou qu'ils étaient simplement suspectés. D'autres qu'on avait mis à leur place uniquement aussi pour pouvoir ligoter des institutions, notamment comme celle du Parlement, de la Chambre des comptes ou des choses comme ça, où ces gens-là se sont enrichis en plus sur le dos, où Louis XI a laissé faire aussi. Et Olivier Le Dain est un magnifique exemple de cela. Et puis, à côté de ça, c'est vrai, si... Grosso modo, là encore, la politique de Louis XI est poursuivie sous Charles VIII, c'est-à-dire de cette poursuite de cette unité du royaume et de ce mélange de ce domaine royal avec les frontières du royaume français, de France. Eh bien, il y a aussi une politique judiciaire tout autre. Les procès ne sont plus les mêmes. Même s'il y a eu opposition, il faut attendre des guerres. Comme on va peut-être en parler vaguement tout à l'heure sur les guerres de Bretagne, pour qu'enfin on accuse quelqu'un qui a porté les armes contre le roi de crime de lèse-majesté, qui est le duc d'Orléans. Mais c'est quelques procès et on n'aura jamais les condamnations que Louis XI avait ou exigeait de ceux qu'il prétendait être ses ennemis. Donc, la France, même si elle est en guerre, les guerres sont moins longues. Et en tout cas, beaucoup plus concentrés dans des régions, soit à l'est, dans l'est de la France, soit en Bretagne, et ne sont pas aussi régulières aussi violentes que celles que sous Louis XI.
Alors, vous allez m'assassiner, mais est-ce que vous pourriez nous dire que représente l'enjeu de la Bretagne ? Parce que le règne de Charles VIII est marqué par deux grandes questions. La question bretonne, premièrement, et deuxièmement, la question italienne. Quels sont les enjeux de cette question bretonne ?
D'abord, la Bretagne, c'est un immense duché. C'est un gros territoire et qui n'appartient pas, comme je vous dis, au domaine royal. Donc du coup, le roi ne tient pas directement déjà tout un aspect fiscal de cette région. D'autre part, sa justice, même si les lois, quand vous regardez les lois du domaine royal ou les lois du duché, sont pratiquement les mêmes, là encore, il passe à côté. Le duc de Bretagne lui doit fidélité et lui doit aussi un soutien militaire et diplomatique, qu'il fait pas toujours. Enfin, ça, c'est selon les périodes et selon les accords. Mais en tout cas, sous Louis XI et sous Charles VIII, ça ne l'est pas, ou pas vraiment, ou selon les... C'est très variable. Et donc, c'est une façon aussi d'étendre son autorité. D'autre part, la Bretagne avait été donnée à la famille des Montfort depuis la fin du XIVe siècle. Et cette famille succédait de mal en mal par les mâles, un peu comme la monarchie française. Et François II n'avait que des filles. Donc, il y avait un problème. Et qu'il était le dernier en ligne directe des garçons à succéder. Donc derrière lui, il fallait remonter soit à un Penthièvre, soit au droit du roi de France qui pouvait récupérer un duché qui appartenait au royaume. Or, Louis XI avait racheté les droits des Penthièvres et donc se présentait comme un légitime prétendant au duché. Il est mort. Et quand Charles VIII arrive au pouvoir, eh bien, le gouvernement Beaujeu se dit, après tout, François II va bientôt mourir, il y a deux filles, elles sont mineures, elles n'ont aucun droit officiel, selon le traité de Guérande, à succéder. Eh bien, on va, revendiquer les droits, et puis... Et tenter d'accrocher ce duché au domaine royal. Le seul problème, c'est que François II va résister, que ceux qui se mettaient à lutter contre Pierre de Beaujeu, parce qu'ils avaient été évincés du gouvernement après les états généraux, comme Louis d'Orléans, eh bien, vont venir soutenir François II. Et François II, parce qu'il avait besoin d'argent et d'aide militaire supplémentaire, va faire... intervenir les ennemis traditionnels du royaume de France, d'ailleurs l'Angleterre et l'Allemagne. Et là, on rentre dans une période de 4 ans.
Très complexe.
En radio, assez compliqué à raconter. Mais grosso modo, c'est imaginez aujourd'hui tous les opposants du pouvoir républicain français et de tous ceux du gouvernement actuel réunis en Corse avec les indépendantistes et associés à toutes les personnes qui n'auraient été mal contentes de l'attitude du président de la République pour ne pas avoir soutenu, par exemple, la guerre d'Irak. Oui, c'est un conglomérat avec des trahisons régulières tous les 2-3 mois, des intérêts personnels qui se mélangent aux intérêts politiques et vous arrivez à une sorte de charivari assez puissant, mais dans laquelle finalement Louis Charles VIII ne sera à jamais atteint, parce qu'on n'ira jamais directement contre lui, et où finalement toutes les attaques seront contre le gouvernement Beaujeu, qui, parce que Charles VIII va grandir pendant toute cette période et qui va enfin atteindre son âge de 20 ans, qui est un âge où justement, quelle que soit sa situation dans la hiérarchie de la société française, on atteint son autonomie totale, et bien le gouvernement Beaujeu va se retirer.
Alors c'est à ce moment-là qu'interviendra les fameuses guerres d'Italie, c'est ce que nous verrons Didier Le Fur après cette dernière pause. À tout de suite.
Un événement,
une association,
une œuvre,
une fondation.
Tout ce qui mérite votre attention est dans Point de Mire,
en direct ou en médiathèque
sur Canal Académie.
Un jour dans l'histoire reçoit Didier Le Fur, biographe du roi Charles VIII, une biographie parue aux éditions. Alors, nous avons évoqué la jeunesse du roi de France, son éducation, l'institution monarchique, ce qu'elle représente au XVe siècle. Nous avons glissé rapidement sur la question de Bretagne. Entamons, si vous le voulez bien, Didier Le Fur, cette question italienne. La question italienne domine le règne de Charles VIII, mais en toile de fond, on retrouve, et vous le dites bien dans votre ouvrage, la question de la croisade. Pourquoi, derrière l'Italie, il y a cette question de la croisade ?
Pour ça, il faut remonter jusqu'à Saint-Louis. Le royaume de Naples était occupé par Léonstoffen et le pape, qui était le garant de ce royaume, avait quelques problèmes avec cette famille et donc appelé le roi de France pour venir l'aider militairement. Saint-Louis avait refusé, mais avait envoyé son frère Charles d'Anjou. Et Charles va chasser Manfred et en récompense, donc, le pape va lui donner ce royaume comme suzerain. Et la présence française va rester longtemps et pendant longtemps aussi, on va considérer que ce royaume italien était une sorte de piédestal et à une hypothétique croisade, parce que même si on les faisait plus pendant le XIVe et le XVe siècle, eh bien l'imaginaire demeurait.
L'idée persistait, l'idée de croisade persiste au XVe et au XVIe siècle.
C'est une idée inhérente, dans le sens où un roi de France ou un prince chrétien, et surtout celui comme le roi de France, qui considère qu'il est le garant de la sécurité de l'Église et des États de l'Église romaine, eh bien, se doit de faire, ou se doit en tout cas d'envisager chaque fois que l'Église est en danger. Or, à la fin du XVe siècle, enfin à partir de la deuxième moitié du XVe siècle, l'Empire ottoman prend une véritable puissance et la menace, et c'est vrai, pas réelle, mais en tout cas plus préoccupante depuis les années 1480, puisque les armées ottomanes viennent frôler le sud de l'Italie et tentent de remonter en Europe de l'Est. Et donc des royaumes comme la Hongrie sont directement menacés, et le royaume de Naples aussi un temps. Donc le pape, pour... essayer de se protéger et en tout cas de maintenir aussi la puissance de l'Église chrétienne en Europe, va continuellement envisager l'idée d'une croisade pour repousser ces musulmans qui rentraient en territoire dit chrétien.
Donc Charles VIII se propose ?
Non, il se propose pas. C'est une demande que le pape fait d'abord à son père, tous les rois de France s'étaient toujours proposés pour justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de protéger cette église. Et Louis XI avait dit oui, mais il n'y est jamais été, parce que c'était pas du tout son intérêt, et puis que c'est le problème ne se posait pas de la même façon. Mais en tout cas, on avait imaginé, et le pape avait déjà imaginé dès 1482, si je me trompe pas, et que Charles VIII pouvait devenir ce libérateur, en tout cas, et ce protecteur. Et pendant toutes les années 80, alors que Charles VIII grandit, que le gouvernement Beaujeu s'occupe des affaires de Bretagne, eh bien, cette Italie, peu à peu, entretient l'idée qu'une intervention française peut être possible. Et les papes successifs, jusqu'à Alexandre VI, vont soutenir cette idée. Et au moment où, finalement, Charles VIII débarrassait du problème breton, ayant épousé Anne de Bretagne, fait la paix avec l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne, va envisager l'idée d'aller conquérir ce territoire napolitain sur lequel il a des droits légitimes. Eh bien, la papauté va dire finalement ben non, et va se dessaisir du dossier, en fait, c'est-à-dire s'éloigner de ce projet, à son grand drame, puisque finalement Charles VIII, ira en Italie, obtiendra du pape le passage de son armée dans ses territoires, et trois, ira conquérir le royaume.
Alors, il arrive à conquérir ce royaume, il le conquiert assez facilement. Pourquoi le perd-il aussi facilement ?
Ah, peut-être à cause de ça, justement. C'est que pour partir, il avait dû obtenir des alliances. Le duc de Milan avait besoin de ce soutien français pour pouvoir s'imposer par rapport à des rivalités qu'il avait avec Florence et autres. Donc finalement, les premiers États, chez Milan, la République de Gênes, ont été très favorables. Donc, ont permis à l'armée royale de pénétrer très très aisément dans la péninsule italienne. Florence, qui avait longtemps été l'allié français, mais qui s'était finalement retournée contre lui pour soutenir le roi de Naples, eh bien, avait devant une incapacité militaire, avait accepté la soumission et permis à l'armée française de rentrer. Le pape, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, malgré ses réticences, avait fait de même. Et finalement, en trois mois, sans aucune entrave, sans aucune guerre réellement déclarée, Charles VIII était rentré en Italie. Le seul problème, c'est qu'une fois qu'il était arrivé à Naples, eh bien, tous les alliés d'hier, parce qu'ils ne pouvaient pas lutter officiellement quand l'armée était devant lui, enfin devant eux, eh bien, se sont unis pour pouvoir faire bloc et empêcher le passage de Charles VIII quand il souhaitera remonter dans son royaume de France. Et donc cette précipitation du retour et cette nécessité de protéger le roi absolument de toutes les tentatives d'enlèvement ou de bataille qui aurait pu mettre en danger sa mort et devenait une chose impérative. Et puis en plus, il n'y avait plus d'argent. C'est le problème, c'est que tout l'argent promis par les États d'Italie, du duché de Milan, Florence ou même le pape, qui avait promis quelques soutiens, notamment alimentaires, eh bien, n'était pas venu, ou en tout cas, tardait à venir. Et du Royaume de France, l'argent était bloqué, puisque justement la Ligue qui s'était formée, c'était un peu comme une porte qui s'était ouverte pour le laisser passer, et qui s'était refermée derrière lui, et qu'il fallait absolument qu'il se précipite sur cette même porte qui se refermait pour pouvoir sauver sa vie. Sinon, il serait resté coincé.
Alors pourtant, ce n'est pas l'envie qui lui manque d'y retourner en Italie.
Ah non, au contraire, c'est une obsession. Et parce que c'est un c'est une volonté, comme il y a eu cette volonté de la conquête de la Bretagne et d'aller jusqu'au bout d'une politique, et bien là, c'est un droit qu'il veut récupérer, qu'il veut pouvoir jouir, dont il veut pouvoir jouir. Et donc, la chose est aussi évidente que quand on a un objectif et qu'on veut le tenir. Non, c'est, d'ailleurs, ce ne sera pas un objectif personnel, puisque Louis XII va tenter la même chose et François Ier va l'imaginer aussi après la bataille de Marignan.
Alors, on arrive à la fin de cette émission. Nous ne pouvons pas nous quitter sans évoquer sa mort. Bon, toutes les morts sont bêtes, mais là, oui, on a l'impression d'une sorte de, non pas de fatalité. Et finalement, je le disais tout à l'heure, hein, et vous le signalez également, c'est un roi qui était aimé. Et
il avait une bonne image. Ouais. Il avait une image de prince doux. C'est ce surnom d'affable qui lui a collé un peu à la peau pendant sa bonne période dans l'historiographie est un surnom italien, mais parce que beaucoup d'Italiens ont eu finalement, alors que c'était un envahisseur, alors qu'il était là pour occuper des territoires, et bien, et en tout cas considéré par, notamment par les Vénitiens comme une vraie plaie, et bien, il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont été attachés à sa personnalité. Parce que là, cette personnalité, on peut la décrypter par contre un peu plus pendant les périodes italiennes, puisque d'autres vont pouvoir assister à des scènes privées, comme dans le livre, comme je raconte dans le livre, c'est-à-dire une scène de repas qu'on décrit peu, et où finalement on voit un roi chaleureux et attentif à toutes les personnes qui l'entourent. Et visiblement, cette attitude-là étonne et surprend et séduit aussi.
Alors, il meurt donc par accident ?
Il meurt à Amboise, oui, en avril 1498, un accident tout bête, en se cognant la tête contre une poutre de porte. Et alors, c'est un choc. La mort va venir plusieurs heures après, dans une galerie qui servait de pissotière à ses soldats, et dans laquelle on avait installé une sorte de loge pour que les spectateurs puissent assister à un jeu de paume. Et bien, Charles VIII va mourir donc dans cette pièce assez sordide, après avoir agonisé 5 ou 6 heures.
Vous dites, dans les dernières pages de votre ouvrage, il a tout commencé, il ne pouvait rien finir.
Oui, comme sa vie. Il a tout commencé, c'est-à-dire que s'il avait vécu là et qu'il avait eu un enfant mâle, la Bretagne aurait été définitivement attachée au domaine royal. Or, il s'est trouvé qu'il est mort sans enfant, que d'après son contrat de mariage avec Anne de Bretagne, eh bien, celle-ci devait épouser un autre prétendant. Le prochain prétendant à la couronne, qui était Louis XII, qui avait dû divorcer, lui, de sa première épouse, qui était la sœur de Charles VIII, c'est un peu compliqué. Et donc, tout était à refaire de ce côté-là. Et pour l'Italie, il aurait pu repartir. La puissance militaire française était absolue par rapport aux autres puissances étrangères. Il y avait encore de l'argent, même si on en manquait toujours. Et que la France était un pays riche, donc il était toujours facile d'en obtenir. Et que militairement, l'Italie n'était pas capable de soutenir une deuxième invasion. D'ailleurs, la preuve est, c'est quand Louis XII va partir en Italie pour d'abord conquérir le duché de Milan, eh bien, ce sera une affaire qui va tenir pendant de longues années et qui sera finalement assez aisée. Et si le royaume de Naples va finalement échapper aux mains des rois de France, c'est qu'il y a eu un choix, et parce que les Espagnols ont vu la facilité de Charles VIII à conquérir ce royaume, ont eu aussi des ambitions, puisqu'ils avaient des droits aussi là-dessus, et qu'ils se sont associés pour pouvoir se partager le royaume, et puis qu'il y a eu de non-respect d'accord. Mais l'idée que Charles VIII puisse conquérir et obtenir le royaume, s'il avait vécu, oui, c'est peut-être lui qui avait peut-être le plus de chances de l'avoir.
Eh bien, Didier Le Fur, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Canal Academy. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, à votre bel ouvrage, Charles VIII, paru aux éditions Perrin, une biographie toute récente, ainsi qu'à l'émission que nous avons enregistrée ensemble, Marignan, 13-14 septembre 1515, paru chez le même éditeur en 2004. Cette émission est disponible dans la médiathèque de Canal Academy. Merci beaucoup, Didier Le Fur.
C'est moi qui vous remercie.
Et à très bientôt.